C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Ah bah tiens, vous êtes là. Oui. Ah bah bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien. Et même très bien sur O2 Radio 91.3. Nous sommes le mardi 19 novembre 2024. Il est 14h passé de quelques secondes à notre horloge. Bienvenue dans Ciné 100, l'émission de tous les cinémas. Alors avec moi, dans le studio, Patrick. Bonjour Patrick.
Ouais, bonjour Jean-Jacques. Je suis un peu forcé de venir, hein, puisque je suis payé. Donc.
Vous allez bien, apparemment.
Non, je vais pas bien du tout.
Attendez, polémique.
Oui. Polémique Victor.
Vous êtes payé ?
Oui, bien sûr, grassement même.
On en reparlera tout à l'heure.
Comment ça ?
Bonjour Annelise, vous êtes là ?
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Comment allez-vous après ça ?
Eh bien, écoutez, ça va.
Très bien. Alors, depuis le début de cette saison, ce sont un peu de nos mémoires personnelles à nous trois que nous avons partagées. Avec vous, pardon, ainsi que beaucoup de la mémoire collective. Eh bien, aujourd'hui, c'est une mémoire particulière, je dirais même singulière, à qui nous allons consacrer ce 8e épisode avec un invité à qui nous allons confier une toile blanche sur laquelle il va projeter ses films favoris, ce qui le fait vibrer, ce qui le fait pleurer ou ce qui le fait rire dans le cinéma. Jingle.
Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour.
Ouais, ça on verra après, mais oui. je peux pas dire. Et donc cet invité, Patrick, c'est...
Eh bien, pour ceux qui ne le connaissent pas,
oui, c'est
Michel est une espèce en voie d'extinction. Michel Jabet, bien sûr. C'est un homme gentil qui ne pose pas de problèmes et qui a même tendance à les résoudre. Mais c'est aussi un homme engagé sur plein de fronts différents, peinture, cinéma, petites voitures électriques et président d'associations théâtrales. Après avoir travaillé pendant des années pour la mairie de Gradignan, où il est toujours le représentant du Père Noël, il court sa retraite, pas si paisible que ça. Et je lui dois d'avoir assisté à ce que je crois être le premier opus du Défi Ciné Musique. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, Michel?
Bonjour Michel, quand
bonjour
même.
Michel.
Oui, bonjour Michel, oui,
oui, oui,
bonjour.
Quand même.
Oui, bon, bonjour, salut
Annelise,
Michel.
Bonjour Patrick, voilà. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Oui, bon, alors on m'a obligé à venir, hein, bien sûr. Hein,
oui, oui, oui.
Vous n'êtes pas payé, vous.
Les menottes, j'ai gardé les menottes.
Oui, hein. Ben justement, oui, on va en parler tout à l'heure.
Bien sûr.
Donc, le défi ciné-musique, oui. Ah, ça, c'est...
Vite fait, en deux mots. Hein.
Vite fait. Donc, l'idée, c'était de donner à des réalisateurs une mission de réaliser un film de 5 minutes, sans musique, souvent sans parole. Et on confiait ces films à des compositeurs.
D'accord.
Qui mettaient ce film en musique. Et le deal final, c'était de venir les jouer en live, en ciné-concert.
Alors aujourd'hui, on va pas pratiquer de cette façon, mais on va aborder plusieurs de vos films, n'est-ce pas, Annelise ?
Oui, tout à fait. Alors, de façon à cerner un peu mieux vos préférences cinématographiques, nous vous avons demandé de choisir dans votre filmographie personnelle trois films qui sont importants pour diverses raisons, que vous allez nous exposer. Et le premier de ces films est Midnight Express.
Un petit résumé peut-être, Michel ?
Alors, Midnight Express. Déjà, pourquoi ce choix ? Je crois que c'est le film que j'ai vu le plus souvent au cinéma. Ça correspondait, j'étais étudiant à l'époque. Et voilà.
Les années 70 ?
Fin 70, c'est un film de 78. Ouais, donc, voilà. Donc, c'était entre le lycée et la fac. Et voilà. Et donc, ce film raconte... c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un jeune américain qui décide de rentrer chez lui avec beaucoup trop de drogue scotchée à son corps, et il se fait arrêter avant d'embarquer dans son avion. Et donc on est en Turquie, on est à Istanbul, fin des années 70. Voilà, c'est avec un régime assez rude.
Oui. Assez tendu.
Et les Turcs décident de faire un exemple. de ce jeune gars, et qui au départ est condamné à 4 ans et sa peine est commuée en prison à vie et dans l'enfer des prisons turques.
Et on est sensible à son aventure, du coup, même si on consomme pas soi-même de la drogue.
Exactement, oui, parce que voilà, il vit vraiment l'enfer des prisons turques. Quoi. C'est une atmosphère très très lourde, très noire, très oui.
On ne l'a pas dit, mais le film est d'Alan Parker.
Alan Parker, oui.
Voilà. Petite question sur ce film-là. Vous l'avez mentionné, c'est un film qui tirait d'une histoire vraie. William Hayes, le personnage, qui dans la vraie vie s'appelait aussi comme ça, je crois, et qui s'est échappé quelques années plus tard.
C'est ça.
Alors, est-ce que pour vous, le cinéma il doit être la transcription intégrale de cette réalité, ou est-ce que on peut se permettre de romancer la vraie vie?
Moi, je pense qu'il est plutôt intéressant, enfin pour, en tout cas pour le cinéma, de romancer, en fait, de partir éventuellement sur une base réelle, mais après, donc il y a le pouvoir de l'auteur aussi et l'intérêt aussi. Enfin, je crois de romancer. Oui. Enfin, je suis assez favorable à ça.
C'est votre avis, mon cher Michel. Oui, vous avez le droit de l'avoir.
Et je le partage.
Et vous le partagez. Vous avez bien raison. Et moi, la scène du film qu'on va écouter maintenant se déroule dans la terrible prison de Saguenay-Lac-Saint-Hilaire.
Bonjour, cher ami d'Amérique. C'est plutôt mal vu d'aller à contresens. Un bon Turc marche toujours vers la droite. Gauche, c'est communisme. Droite, c'est bien. Écoutez. Il faut aller dans le bon sens. Vers la droite, c'est le bon sens. Où allez-vous? Pourquoi vous ne rentrez pas dans la ronde avec nous? Qu'avez-vous, cher ami américain? Qu'est-ce qui vous indispose de la sorte?
Ah, la mauvaise machine ignore-t-elle toujours qu'elle est une mauvaise machine? Votre incrédulité me nomme. Vous ne croyez toujours pas que vous êtes une mauvaise machine? Se connaître soi-même, c'est connaître Dieu, mon ami. L'usine, c'est tout. Voilà pourquoi vous êtes ici, vous verrez. Vous comprendrez. Avec le temps, vous saurez tout.
Oh, je sais. Je sais déjà tout. Je sais que vous êtes une mauvaise machine. Et c'est pour cela que l'usine vous garde ici. Savez-vous comment je le sais? Hein? Je le sais. Parce que l'usine, c'est moi. Je fabrique les machines.
Il y a une bonne ambiance, hein.
Oui, on sent.
C'est pas un film crédité par l'Office de tourisme turc.
Non, pas franchement. Et c'est pas interprété par Michel Serrault ou Funès non plus. Non. Vous avez remarqué qu'on n'a pas reconnu les voix. Alors, Michel, lorsque le film est sorti, vous étiez encore tout jeune, hein, en 78. Hein. J'aimerais savoir ce qui vous a touché, ému ou choqué dans le film. Est-ce la trajectoire du personnage qui part du tarmac de l'aéroport jusqu'à la fin qu'on a vaguement décrite tout à l'heure, ou est-ce que c'est la description du personnage carcéral turc qui vous a impressionné? Je vais se réfléchir là-dessus.
J'ai 4 heures, non?
C'est ça. 2 minutes.
Mais en fait, oui, c'est sa trajectoire et comment il arrive à survivre dans ce monde, dans cet univers-là, bon, qui est assez joyeux, hein, comme nous montre l'extrait qu'on a pu entendre. Et moi, ce qui m'a marqué et ce qui est assez jubilatoire, justement... Alors, j'ai le droit de spoiler, parce que, bon, il y a prescription.
Oh, hein, oui, largement, tout le monde l'a vu, d'ailleurs.
Prescription, voilà, bien le mot.
Voilà. Bon, bah tant pis. Voilà.
Vous serez la fin.
Et cette évasion est totalement jubilatoire.
Ah ouais, quand il fracasse le crâne du directeur sur le crâne avec les cornes.
Oui, ça, je crois que c'est vraiment le meilleur moment du film. Et, parce que justement, il y a une telle tension pendant tout ce film. Mmh. Et voilà. Et là, justement... On ne sait pas, enfin, c'est certainement de la fiction, mais c'est là que la fiction devient intéressante aussi. Quoi.
Oui, alors j'ai vérifié là pendant qu'on écoutait l'extrait, j'ai regardé. En fait, le vrai William Hayes s'est échappé 5 ans plus tard. C'est-à-dire, il est resté 5 ans dans les prisons turques avec la bonne ambiance qu'il y avait, parce que tout lui tombait dessus à lui. L'arrestation, la surprise d'être arrêté alors qu'il était innocent d'une certaine façon. Et voilà, donc
Mais c'est un film sur la résilience en même temps, hein, sur la capacité de l'homme à contenir ses douleurs, à contenir sa peur et à aller au-delà pour s'en sortir. Et
là, pour vivre, il faut.
Et sa terreur aussi.
Survivre.
Là, c'est
pour survivre et pour pouvoir vivre l'après aussi. Donc, pas se projeter et puis arriver à vivre l'instant présent. Et c'est vrai que c'est un film qui est fort pour ça, quoi. Sur comment est-ce que l'homme, quand il se retrouve confronté à une charge aussi importante que ça, il arrive à
trouver
survivre,
la ressource, hein,
à survivre.
Et le pire, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, parce que il se trouve que l'année où est sorti le film, j'étais en Turquie, à Istanbul, justement, personnellement.
Ah, c'était donc vous, William Rice.
Non, mais je veux dire, ça aurait pu m'arriver. D'une façon
si vous aviez 3 kilos de hache sur vous, oui, effectivement, ça pouvait vous arriver.
Tout à fait.
Ne disons pas de bêtises, Patrick, s'il vous plaît.
Ou le phénomène des mules aussi, enfin...
Donc, mais une mule à un aéroport, ça se voit davantage. Quoi.
Alors, admise, je voulais dire qu'Istanbul Blues est une des chansons du film.
Oui, tout à
fait. Voilà. Et il est interprété par David Castel.
Allons-y. Got those old Istanbul blues. Said, yeah, I got the blues, baby. Got those old Istanbul blues. Years in Turkey, baby. Ain't got nothing left to lose.
Bien le triangle, Alice.
Alors,
bravo.
Michel, j'ai une petite question d'ordre général. C'est comment vous est venu le goût des films et le goût du cinéma d'une façon plus générale ?
Tout petit, déjà.
Oui ?
Oui, non, mais alors, voilà. Mais c'est vrai. Dès ma plus tendre enfance, on avait une petite salle de cinéma dans ma Normandie natale et j'allais au cinéma tous les dimanches après-midi. Voilà.
D'accord. Donc, en famille ?
Et quelquefois tout seul.
Ah oui,
ouais. Ça dépendait des films.
Ça dépendait des films, bien sûr, oui. Mais voilà, oui.
D'accord.
Très intéressant.
Et non, Patrick, mais... du coup, vous aviez des choses à dire.
Oui, moi, j'ai des choses à dire. J'ai plein de choses à dire sur le cinéma, vous savez. Et alors, Michel, j'ai cru comprendre que votre deuxième choix s'était porté sur la ligne verte.
Oui, ben
on va dire quelque chose.
On va pas quitter l'univers carcéral, je suis désolé.
C'est passionnant.
Je suis désolé, mais là, ça, c'est un vrai... C'est un vrai coup de cœur. Alors, à double détente, parce que j'ai lu ce livre avant d'en voir l'adaptation. Alors déjà, donc, je suis un fan de Stephen King.
Et... roman éponyme, d'ailleurs, La ligne verte aussi.
Ouais. Oui. Oui, 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 tout à fait. Et ce film, bon, bah, pour moi, c'est un grand film. Voilà, qui nous décrit une Amérique profonde, la Géorgie raciste à souhait.
Ça se passe en quelle année, le film ?
Dans les années 30, ouais, dans les années, je crois qu'on est en 35, je crois, il me semble.
Oui, c'est ça. C'est une petite différence d'ailleurs avec le livre, parce qu'il me semble que le livre, ça se passe au début des, fin des années 30, et le film, là, c'est début des années 30.
C'est ça, on est sur 35, et donc ce...
Et l'action se passe entièrement dans une prison.
C'est ça. En fait, ça se passe carrément dans le couloir de la mort d'une prison.
Qui s'appelle
La ligne verte. La ligne verte, c'est cette ligne qui traverse le couloir de la mort. Voilà. Et donc c'est l'histoire de ce pauvre monsieur Coffey. Ouais. Cet adorable colosse, en fait, on s'y attache en plus très très rapidement. Et voilà. Donc c'est.
Qui est interprété par.
Alors là, ça, voilà.
Merci Jean-Jacques.
Bravo. Voilà, c'est.
Il aime bien ça. Il y a Tom Hanks.
Il y a Tom Hanks, ça c'est clair.
Il y a Tom Hanks qui fait le gardien en chef.
Je me rappelle plus le nom du.
C'est Clark.
On va
trouver.
Oui.
Oui.
Mais je me souviens plus de son nom.
On va rechercher ça.
Alors généralement, on pose la question à la régie, non ? C'est ça.
Oui. Alors il y en a pas aujourd'hui.
Ah voilà. Et voilà.
Si elle est là, la régie a une question à poser.
Oui. Vous disiez que la ligne verte, en fait, a permis, on va dire, de ce film a permis, le livre a permis de faire prendre conscience d'un vrai problème de racisme et de discrimination assez profond aux USA par différentes scènes, en fait, assez touchantes dans le film et très marquantes. Pour vous, quelle est la scène la plus marquante, en fait, du film et pourquoi ?
Alors, je dirais que c'est la scène finale. Pour ceux qui ont la chance d'avoir vu ce film, c'est cette souris qui survit, qui est encore
qui est encore vivante,
qui est encore vivante à la fin du film, quoi. Et là, qui voilà, c'est
quand elle est dans cette petite boîte et qu'il la fait sortir, que lui aussi, en fait, il a 108 ans,
et la souris est encore là, quoi.
Ouais.
C'est
touchant,
c'est magnifique.
Le personnage de John Coffey, c'est interprété par Michael Clarke Duncan.
C'est ça.
J'ai un bon souvenir.
Oui. Qui d'ailleurs, lors de son décès, il a eu des tags sur sa tombe, des tags racistes aux États-Unis. Donc même jusqu'à la mort, ça continue.
Et le film de 99,
tout à fait.
Oui, c'est ça.
Ça m'est revenu.
Oui.
Ah ben
non,
oui.
Non, mais on a une mémoire qui
ouais, oui, c'est bien.
Qui se complète,
c'est
bravo. Parfait.
On va écouter un petit peu la bande-annonce du film.
Un petit peu.
Allez, même beaucoup.
Croyez pas que si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait. Il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie.
C'est exactement comme ça que je le vois, oui.
Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Après avoir passé sa vie sur la ligne verte, il croyait avoir tout vu. Jusqu'au jour...
Un nouveau détenu arrive dès demain.
Où il a rencontré John Caffey.
Il est gigantesque.
Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme ?
Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur.
Incroyable. Il est... étrange, je dois l'admettre, mais il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui.
Je dois dire qu'il y a peu de dossiers aussi évidents que celui-là. Quand on l'a retrouvé, ses victimes étaient encore dans ses bras.
Je suis convaincu qu'il est innocent. Je n'imagine pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants.
Le plus grand de tous les miracles.
Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir, que je te laisse toute ta chance.
Pourquoi faire une folie pareille ?
C'est le don de l'amitié.
Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, qu'est-ce que je pourrais lui dire ?
La ligne verte.
Alors moi, je n'ai pas vu La Ligne verte.
Bah alors ?
Je ne l'ai pas vu, mais comme plein d'autres films que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une question à vous poser, parce que j'ai lu le synopsis. Et je trouve que dans le synopsis, il y a une pensée chrétienne qui émane du film et qui, je voudrais savoir si elle était importante pour vous.
Qu'est-ce que vous entendez par pensée chrétienne ?
Ben, on fait beaucoup de références à Dieu, on fait beaucoup de références au Fils de Dieu, par exemple. Et le Colosse peut-il être le Fils de Dieu comme le pense Paul, par exemple ? Est-ce que ça peut être un émissaire ? Est-ce que ça peut être un messager ?
Vous vendez un livre,
voilà,
qu'est-ce
qui
se passe?
On demande de poser des questions, je pose des questions intelligentes pour une fois. Oui, et ça surprend tout le monde.
Elle est très intelligente, cette question.
Mais vous voulez dire par la pointe de salut sans la foi ou...
Non, je veux savoir si, selon notre invité Michel, sa lecture du film est influencée ou influente.
J'ai envie de dire ça, c'est tellement américain.
C'est oui. Vrai. Oui.
C'est, je crois que j'ai que cette réponse-là à donner.
D'accord.
En tout cas, moi, voilà. C'est tellement américain.
Oui, c'est vrai que c'est un
c'est
film
vrai qu'on parle
qui a.
De Dieu
qui a
sans arrêt chez les
oui, oui, qui est très.
On met Dieu à toutes les sauces.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, même si nous, on est quand même. Bon, on a notre éducation judéo-chrétienne, soit, mais. Non, je ne mets pas Dieu à toutes les sauces. Donc, voilà.
Ketchup simplement.
Non, ouais, voilà.
D'accord,
très bien.
On le sait, on l'a vérifié déjà. La musique est souvent importante dans un film, quoi, quand elle soutient l'action. Et dans ce film, La Ligne verte, la musique, on va la qualifier de lancinante un peu. Elle est signée Thomas Newman.
Et alors, ah oui.
Oui, parce que ça va vous dire quelque chose. Compositeur Thomas Newman a composé aussi des musiques. Je sais que ça vous allez y être sensible, Patrick, la musique des Évadés.
Oui, tout à fait.
Ah, oui, les Évadés, tiens.
Oui, c'est vrai. Surtout.
Et puis aussi American Beauty.
Oui, mais surtout.
Vous allez nous dire.
Skyfall.
Ah,
oui,
un
des James Bond. Ouais. Eh bien là, on va le retrouver, donc Thomas Newman, par l'intermédiaire de ses instruments de musique, dans la musique de La Ligne verte.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Eh bien, bien sûr, sur 91.3 O2 Radio, bien entendu. Ah oui, bien
un
sûr. Ça, alors ça, vous aimez. Hein.
Ah, on adore. Ça fait partie de nos petites madeleines de.
Ça, je sais. Mais je le fais exprès, du coup.
Ouais, on le sait bien. Michel, oui. Quel est le premier film que vous ayez vu ?
Au cinéma.
Au cinéma, bien sûr. Et le dernier ?
Ah, alors c'était en Normandie, je sais.
C'est ça, dans la petite ville d'Argentan.
D'Argentan, bien sûr.
Voilà, le cinéma s'appelait La Bayard.
La femme du chevalier ?
Ouais, ça doit être ça. Une salle qui n'existe plus maintenant. Et j'ai un souvenir, c'était peut-être pas Ben-Hur, mais en tout cas, on n'était pas loin.
Ah ouais.
C'est, ouais.
C'est Bénure, je crois que c'est un film de 58 par là.
Mais je l'ai vu forcément oui, après, parce que oui, bon, voilà. Mais, ouais.
Je crois que nous avons ce film en commun, d'ailleurs. C'est le premier, un des premiers souvenirs que j'ai
du film. Je crois que c'est un de mes premiers, là, comme ça, à mon âge avancé, ouais. c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma, ouais, je crois.
Et le dernier ?
Le dernier, c'était Dune 2. Je vois que ça soulève ton enthousiasme.
Ah,
Patrick.
Magnifique.
Ah, je suis transporté.
Moi aussi.
Alors, moi, je ne suis pas, pas plus transporté que ça, mais voilà.
C'est Ridley Scott aussi,
oui.
Ouais.
Non,
c'est
non.
Villeneuve.
C'est Villeneuve.
Ah, d'accord.
Et voilà. Donc, ouais, bon.
Avec les faibles.
Oui. Bon, voilà.
Timothée Chalamet. Et donc, ça vous a plu ou non?
Je suis très...
Vous avez plus de souvenirs de Dune 2 que
je crois,
de Bénure.
Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de vouloir mettre, de vouloir faire en sorte que ce livre Dune soit porté au cinéma.
C'est ça.
En fait, ça n'arrête pas d'être d'échec en échec. Et le dernier, on est encore un petit peu, il me semble, un petit peu la preuve. Enfin, en tout cas, c'est mon avis.
Alors, je pense que j'irai faire plus plaisir.
J'irai voir le 3 pour aller au bout,
bout
de la démarche. Mais sans...
Sans grand enthousiasme, quoi.
Ouais,
voilà, sauf dire que bon...
Voilà.
C'est... Faut lire les livres. Mais les livres sont assez chouettes. Et puis, il y a tellement...
J'ai beaucoup aimé les livres.
Mais ouais,
Mais voilà.
Les avis sont très partagés sur Dune.
Oui, c'est pour
mais
ça.
De toute façon, dès le départ, les films de Dune, que ce soit les anciens ou les nouveaux, les avis sont très partagés. Et en fait, je crois que le livre est tellement intense que...
C'est compliqué de le mettre. Ouais. Oui.
Mais le premier Dune, c'est bien Ridley Scott. Ou je me trompe je me trompe complètement.
Allez savoir.
Allez.
C'est
non, je pense
une très
à lui
bonne question.
Parce qu'il semblerait que le Gladiator 2 tienne la route quand même.
Alors il paraît, écoutez, à voir. À voir.
Il sort demain, c'est ça ?
Il est sorti mercredi dernier.
Oui.
Ah bon ?
On en a parlé mercredi, vous étiez à l'émission,
Mais
bon.
Je devais dormir.
La mémoire qui flanche. Il est quelle heure ? Il est 14h27, on a le temps et on arrive tout doucement au troisième film fait partie de votre choix.
Oui.
Et ce troisième film, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est ça ?
Oui.
C'est David Lynch, le premier
Lynch,
Lynch
le premier,
d'une,
David Lynch,
de 1984.
Oui. Donc,
merci Annelies.
Les Aventuriers de l'Arche perdue. Petit résumé pour ceux qui n'auraient pas... était présent sur la Terre,
oui. Mars.
Oui.
Oui, bon, vraiment, là, oui, c'est...
Il faut vraiment avoir fait exprès.
Oui, il faut s'être absenté un certain temps, quand même.
Oui.
Ou être allé dans les prisons turques.
Peut-être, mais...
Ou pas voir la télé à partir de Noël aussi.
C'est ça aussi, parce que je pense que... Oui, alors là, du coup, autant Midnight Express, c'est le film que j'ai vu le plus au cinéma, mais là, celui-là, il fait partie des films qui ont été les plus diffusés à la télévision, je pense, quoi. Ça bat pas le corneau, mais film d'aventure, personnage de prof de fac américaine qui est aussi archéologue à 16 heures et qui va s'embarquer vers la quête de l'Arche d'Alliance.
Alors c'est quoi cette arche ?
On vous le dira quand vous aurez vu le film.
C'est ça.
Vous ne pouvez pas me le dire.
Si l'Arche d'Alliance, c'est quelque chose qui avait été gravé ou conçu.
C'est le réceptacle des tables de la loi.
Exactement, c'est celle qui retient les 12.
C'est ça, les 12 commandements.
Les commandements.
Les 10 commandements.
Les
10 commandements, oui. Les 12, c'est plus tard.
Le 11e commandement, c'est pas les mêmes veines.
C'est pas le même, non. Voilà, oui, c'est l'Arche d'Alliance. Donc, qui est aussi convoité par les nazis. Voilà. Donc, premier film d'aventure, enfin, un gros film d'aventure. Et pour l'anecdote, j'ai longtemps eu l'affiche en ciel de lit dans ma chambre de jeune adulte. Voilà. J'avais réussi à récupérer cette affiche en grandeur
naturelle. C'est pas mal. Dans ce film, en fait, Indiana Jones, on retrouve beaucoup les références bibliques, mais surtout, en fait, la quête. C'est en fait une quête où il va à chaque fois dans ses films chercher quelque chose. Mmh. Et pour vous, Michel, est-ce que... quelle est votre plus belle quête, que ce soit au cinéma ou dans la vie ?
Cheval.
Le cheval, c'est une conquête. Pas pareil.
Alors là, ah, bravo. Alors là, alors il paraît qu'il ne faut pas faire de blanc à la radio, mais là...
Pardon, je ne pensais pas.
On va faire une omelette.
Ah, oui.
On va meubler.
Oui. Hein, je crois que c'est nécessaire. Ah. Hein, oui.
Mais alors, donc c'est pendant que vous réfléchissez, on peut quand même dire que Les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est une bande dessinée animée, quoi. C'est le personnage de Diana Jones.
Oui, c'est un personnage bébé, récurrent, quoi. En fait, assez drôle, qui est à ses heures perdues, aventurier,
charmeur,
qui va, il sait tout faire un peu à la, comment,
à la James Bond des années 30.
Oui,
quoi.
En quelque sorte, ça, ouais, un petit peu.
C'est pas étonnant d'ailleurs que Spielberg ait repris après le personnage de Tintin pour en faire un film aussi.
C'est vrai, oui, on est un peu dans la même, veine, c'est vrai.
Alors, ça vous est revenu, Michel,
vous avez... Non, mais après, vous n'êtes pas...
Non, mais la quête, ça veut dire quelque chose qu'on espère, qu'on va chercher.
A envie,
est-ce qu'on y a atteint, c'est une autre...
Alors, la sérénité.
Ah, ben voilà.
Mais j'avoue que depuis... je suis à la retraite depuis un an, et je pense avoir réussi à atteindre une certaine sérénité dans ma vie. Je m'amuse, voilà. L'idée, c'est que je m'amuse. Général.
Et comme disait l'autre, chacun fait
ce qui lui plaît, et c'est très agréable.
Voilà. Alors, la bande-annonce que nous allons écouter maintenant ne rend pas bien compte de l'action, mais fermez les yeux, laissez faire votre imaginaire.
Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'Arche d'Alliance, l'Arche perdue.
Selon la Bible, l'Arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'Arche.
Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'Arche ? Voulez-vous vraiment le savoir ? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu.
Une armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible.
Si l'Arche d'Alliance se trouve réellement à Tanis, la main de l'homme ne doit pas s'en approcher sous peine de mort.
L'Arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination. Et elle est convoitée, avant tous les autres trésors de ce monde, par les bons et par les mauvais.
Je vais tout vous dire, tout.
Oui, je sais que vous parlerez.
Les aventuriers de l'Arche perdue.
Écoutez, patron, si vous voulez toujours l'Arche, elle va partir par camion au Caire. Baisse-toi !
Les aventuriers de l'Arche perdue. Un film de Steven Spielberg et George Lucas.
Oula, je crois que c'est un film qu'on connaît par cœur.
Mais je crois,
ouais, oui. Je pense,
et,
à force.
Et bon, on évoque le premier opus, mais après, c'est... Oui,
sauf le dernier.
Surtout avec l'apparition de papa, quoi.
Ah oui, alors
et
ça,
moi,
c'est
Sean Connery, ouais. Moi, c'est une de mes idoles. Hein. Ah, oui. Alors, je ne sais pas si... Mais ça, moi, j'adore Sean Connery.
Je prends.
Et là, là-dedans, ah, ils lui ont offert
un
rôle magnifique. Ah. Voilà, ouais, ça, c'est... oui.
Alors, vos deux premiers films là, de la sélection sont deux films qui traitent de la prison.
Ouais.
Et le troisième, Les Aventuriers, c'est plutôt l'évasion, l'aventure. Oui. Alors, une question très simple.
Oh. Mais... je vais prendre ma respiration.
Est-ce qu'il faut mieux voir un bon film sur l'enfermement qu'un film moyen qui traiterait d'aventure ?
Ça sous-entendait donc que Les Aventuriers de l'Arche perdue est un film moyen ou
Non, pas du tout, mais je fais appel à votre sens de la sérénité pour...
Oui. Les deux, mon capitaine. c'est mon côté normand, ça, par contre. Oui. Voilà. Eh bien oui, c'est ça, vous invitez un normand, voilà. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça vous apprendra.
Et il ne vaut pas mieux voir un bon film sur l'enfermement et un bon film sur l'évasion.
Oui, je suis assez d'accord avec ça.
Oui, si on a le choix, oui.
Oui. Non, on a le choix.
D'accord.
On a le choix de ne pas aller voir Indiana Jones, le cinquième opus. Quoi.
C'est... Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, on n'est pas obligé d'aller tous les voir. Oui, pas faux.
Voilà.
Autre très bien.
C'est ce que j'ai à dire. Hein.
C'est bien ça.
C'est mal, hein. Allez, tout le monde a en mémoire la célèbre marche des aventuriers.
Ah non.
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 Vous, ah. Ça vous... Non.
Bah, peut-être.
Non. Qui allez. Est signé John Williams.
Ah oui, John Williams. Oui.
Bien sûr. Bon, bah, et non, en fait, là, je vais écoutez, faire mieux, ouais. En fait. Allez. Je vais vous la faire écouter.
Ah, mais voilà, formidable.
Mais c'est ça qu'il fallait faire.
Ah oui.
Là, ça vous revient en mémoire.
On dirait le boléro.
Je reviens un peu en arrière, je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion dans ce que j'ai dit. Les Aventuriers de l'Arche perdue est un bon film,
ah,
un film moyen.
Bon, très bien, mais bon, ça va, mais on vous pardonne.
Bon, on a eu très peur
quand oui,
même.
Oui, hein. Oui, là...
oui. Vous avez failli passer par la fenêtre.
Ah oui, ah oui.
Et oui.
Alors,
on arrive quasiment à la fin de l'émission.
Non,
ah bah,
non,
ouais. Encore, allez, encore une dernière question. Allez, alors, cette fois-ci bonne, d'ordre général, Michel. Quelles sont vos préférences au niveau des acteurs, des actrices, des réalisateurs, ah, des oui. genres, en fait, dans le cinéma?
Ah.
Alors.
Ah.
Alors, oui, voilà, il y a du film italien, du film anglais, du film français, du film américain.
J'aime beaucoup l'univers de Nolan.
Ouais.
Nolan,
ouais.
Oui.
Oui, oui.
Christopher.
Ouais, Christopher, ouais, Christopher Nolan. Ouais, j'aime bien. Alors, j'aime les films de science-fiction, pas mal.
Oui.
Et
comme quoi, par exemple,
Les Aventuriers de l'Arche perdue.
Alors voilà. Alors, voilà, je me suis fait inviter pour me faire chambrer,
absolument.
C'est ça.
C'est
on est là-dessus, hein, bien sûr.
C'est le principe de l'émission.
C'est, ah oui, non, mais j'avais pas tout compris au départ. Ouais, j'aurais dû me douter.
Il y avait un loup.
Ouais, ouais. Il y avait un truc. Ça se passait vachement bien jusque-là. Et
donc, alors, oui, quel genre de film, quel titre éventuellement
oui,
Tenet, c'est un film de.
Oui, Tenet, c'est pas. Alors, c'est, ça serait pas le premier qui me vienne oui. À l'esprit parce que celui-là,
il est bien tordu.
Il
hein.
est bien tordu celui-là. Ouais. J'ai dû le voir 2-3 fois pour arriver à recoller à peu près les morceaux. Mais c'est vrai qu'il a un univers. Bon, voilà, ça ne va pas me revenir, donc...
Il y en a.
Je ne vais pas...
Nolan, il y en a pas mal.
Mais
il y a
oui,
Batman,
oui, oui,
Dark Knight, il y a Inception aussi.
Oui,
Inception,
ouais,
c'est
oui.
assez tordu ça, aussi.
Ouais, oui, bah, qui est assez tordu.
Oui.
Mais
Memento,
peut-être, un peu moins, un peu ouais, tordu, mais un petit peu moins... Plus on avance quand même dans le temps, plus
oui,
c'est tordu quand même.
C'est
hein.
ça, c'est un peu là-dessus.
C'est vrai que...
Et généralement aussi les films qui traitent des voyages dans le temps. Ça, alors là, ça va de Retour vers le futur à Looper ou des choses comme ça. Je suis assez fasciné par...
Et la machine à remonter le temps.
Ouais,
aussi,
mais en, oui, mais oui, oui.
Vieux classique.
Ça, c'est un vieux classique.
Ouais, d'aller en dans le temps, en
oui,
avant
c'est ça.
Ou en arrière.
Ouais, ouais. C'est Looper, là, faut le mode d'emploi aussi. Ouais.
Ouais.
Voilà. Et donc là, on n'est plus trop au cinéma, mais on est sur Netflix, mais il y a vraiment une série qui s'appelle Dark.
C'est ah,
une
bah oui.
Série allemande.
Tout à fait.
Et c'est fantastique. Ouais. Et donc là, on est servi au niveau voyage dans le temps. Voilà, c'est un thème qui me fascine pas mal. Voilà.
Et alors, nos amis acteurs et actrices, est-ce que vous vous déplaceriez pour voir un film parce qu'un acteur ou une actrice précise est dans ce
non,
film ?
Non, je ne suis pas un.
Ce qu'on faisait il y a quelques années où on allait voir le dernier de Funès ou le dernier Belmondo.
Non, on va
le
dire.
Le dernier de Long, ça va être compliqué.
Ouais, ça va être compliqué. Je ne suis pas un fan, en général. Voilà.
Mais par contre, vous disiez tout à l'heure, sans risquer de me tromper de trop, que Sean Connery faisait ouais. partie de...
Oui, alors voilà. Mais bon, mais
bah,
c'est pareil.
Le dernier Sean Connery,
Sean Connery,
ça
va être compliqué. Voilà.
Il y en a eu.
Non, mais j'ai bien aimé le dernier James Bond, là.
Craig. Sûr.
Ouais.
Avec Daniel Craig.
Ouais, Craig, j'aime beaucoup cet acteur.
Le nom de la rose aussi, dans lequel il avait.
Mais il en a fait tellement.
Ah non, mais ça, Sean Connery.
Le nom de la rose,
Le nom de la rose, c'est sublime. Le livre, alors par contre, le livre, je ne l'ai pas fini, Le Long de la Rose.
Il est un peu plus.
Il est très trapu. Là, je me suis. Là, j'avoue que j'y ai. Oui, voilà.
C'est un des films qui est du coup bien retranscrit au cinéma. C'est-à-dire que quand on voit Le Long de la Rose, le film, on n'est pas obligé de lire le livre qui est assez dense.
Le livre, il est très, très dense. Quoi.
Ouais.
Non, je suis un lecteur, on va dire. Je dévore les livres, mais alors là, celui-là, j'ai pas pu. Je crois que j'ai pas pu aller au bout. Quoi,
alors, à part Sean Connery, non, vous n'avez pas de.
Non.
Une actrice que vous aimez bien
c'est
aussi,
le
éventuellement.
C'est un personnage qui vous parle davantage que l'acteur.
En actrice, il y a Sophie Marceau. Voilà, parce que je trouve qu'elle vieillit très, très bien.
Sophie Marceau, elle a commencé dans La Boum.
Ouais.
Je connais pas.
Bon, alors, et puis là, pour la blague, je dirais Virginie Efira, parce que j'ai eu l'occasion de
tourner avec elle
il y a trois jours.
Dans Chopin.
Dans Les Braises, qui est en train de se tourner sur Angoulême. Et voilà, j'ai eu la chance de faire de la figuration sur un rond-point avec un gilet jaune pendant toute la journée. Et voilà.
Même pas tabassé par les gendarmes.
Non, même pas. Ça s'était tourné avant ça à Paris.
Mais tout fout le camp.
Oui, c'est monsieur. Ça. Hein.
Et vous parlez beaucoup de films étrangers, mais films français alors ?
C'est là qu'il y a un blanc, généralement.
Oui, à part les miens, lesquels vous aimez.
Alors voilà, oui. À part ceux de Patrick, mais dans lesquels je tourne seulement. Hein.
Voilà.
Non, je ne suis pas transporté.
Rien, même des anciens films.
Oui, après, ça va être des classiques, oui. Mais sinon, je ne suis pas transporté par le cinéma français, que je trouve trop verbeux et... voilà. Souvent un peu chiant, mais ça n'est que mon avis. Hein. Je m'aventure sur un terrain très glissant. Et,
bah, chiant, oui, et, c'est un peu le cas. Oui.
Et j'irai pas plus loin.
Ah là là, et bien Ciné-Sens, c'est fini pour cet épisode numéro 8.
Ah non,
on vient d'arriver, Anise.
Mais quand même. Hein. Mais vous pouvez le réécouter en podcast sur le site d'Aude Radio. D'ailleurs, cet épisode et tous les autres aussi, si d'accord. vous le souhaitez. La semaine prochaine...
Mais il nous reste à remercier notre invité.
Oui, pardon,
déjà, hein,
tout à fait.
Non, mais c'est, je, vous en remercie.
Je me suis mélangée dans
vous
mes
vouliez, Vous vouliez
dans
bafouiller
mes
sur mes répliques. il nous reste à remercier notre invité. Merci Michel.
C'est un vrai plaisir de
nous avoir retrouvés ici. Nous nous retrouverons mardi prochain, figurez-vous, pour un nouvel épisode où nous ferons un bond en arrière dans le temps pour nous retrouver en 2005.
Et oui. Ce sera à 14h sur O2 Radio 91.3, bien entendu.
Bien entendu. Alors, on va se quitter, selon la nouvelle tradition de cette émission, avec la perle du jour. Jean-Jacques, vous avez la parole.
Oui, alors, la même année que Les Aventuriers de l'Arche perdue, un film d'aventure moyen, en 81, Claude Forrier, ça vous dit certainement...
Oh, rien,
sacré Claude, mais bien sûr,
mais alors, attendez, Forrier. Il sortait quand même sa chanson qui s'intitule « Je veux que tu me reviennes ».
D'accord.
Ah. Alors voilà, et ce faisant, ce bon Claude se situait entre Claude François, pour le pire, et Benoît Poulvorde, pour le meilleur. Ah. Voilà, « Je veux que tu me reviennes » est une vraie supplique. Ben à mon avis, c'est pas gagné, vous allez voir.
Allez, à mardi prochain, oui. Et en attendant,
bon vent à tous.
Je veux que tu me reviennes. Je pense à toi chaque jour. Je veux que tu me comprennes. J'ai besoin de ton amour. Chaque jour est gris dans ma vie, mais ton regard me poursuit et ta voix chante en moi et je crie, oh oui, je crie. Tu es toute ma vie, je veux que tu me reviennes, car j'ai besoin de ton amour. Je pense à toi chaque jour. Je veux que tu me comprennes, car j'ai besoin de ton amour. Vite un mot de toi, je t'en prie. Ne me laisse pas seul dans l'oubli. Seul sans toi, je m'ennuie et je crie. Oh oui, je car j'ai besoin de ton amour. Chaque jour, je veux que tu me comprennes.